Rabbi, c'est pluriel? Je ne sais pas. Et chaque rabbin avait des disciples qui le suivaient. Et le jour de chaque rabbin, c'était son enseignement particulier que les gens, les disciples devaient suivre. Alors Jésus est en train de dire, mon enseignement, ce n'est pas comme les pharisiens. Ce n'est pas comme les autres rabbis. Parce que eux, ils mettaient des fardeaux très lourds. Que Jésus dit, mais vous ne pouvez même pas les porter vous-même et vous les mettez. Et vous faites des disciples qui sont deux fois fils du diable que vous. Mais aux humbles, il disait, prenez mon joug, prenez mon enseignement. Écoutez-moi, je vais vous montrer comment vivre dans ce monde avec beaucoup plus d'aise et facilité. Tu sais, Laure et moi, nous venons de déménager dans le sud et puis Dieu nous a donné une magnifique maison avec grand terrain et on pense mettre un potager. Si je peux tuer tous les sangliers qui viennent déjà détruire. Et on a regardé une émission sur YouTube sur un chrétien qui est jardinier aux États-Unis et ses méthodes. Et dans cette émission, il donne des enseignements bibliques qui s'appliquent à la culture de la terre. Et donc il dit, Adam n'était jamais censé labourer la terre. Ça, c'est venu après. Parce que après, l'homme voulait faire à sa façon. Au lieu de faire comme Dieu avait dit, comme Dieu avait créé. Et donc cet homme, il laboure jamais sa terre. Il dit, regarde la forêt, ça pousse, la terre n'est pas dure, ça pousse parce que les feuilles tombent. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais on laisse les feuilles tomber et s'accumuler. Éventuellement, ça rentre dans la terre. Et donc lui, il fait la même chose, il met couche après couche, de petits morceaux de bois, couche après couche, et il laisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais ça rentre dans la terre. La terre reste humide. Il arrose jamais. Ah, tu vois. Donc, quel exemple est-ce qu'on peut tirer de ça pour nos vies? Mais moi, je dis, quand il y a quelque chose qui me semble trop lourd, et je ne dis pas que parfois il n'y a pas des choses qui arrivent, qui sont dures, les tempêtes, même les tempêtes, ça dégage de nitrogène que la terre a besoin. Donc même les orages font partie de l'économie de Dieu. Donc les choses dures dans notre vie, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Hein? Mais parfois, on dit, mais pourquoi c'est si dur? Je porte un lourd fardeau. La plupart du temps, je vais dire aux gens, et comme je dis à moi-même, si tu portes un lourd fardeau, ce n'est pas le fardeau de Dieu. C'est ton fardeau. Ou c'est un fardeau que quelqu'un d'autre a mis sur tes épaules. C'est ça qui fait souffrir, souvent. Ça vous dit quelque chose? On est éduqué dans un système d'éducation où on attend beaucoup de nous. Et il faut réussir. Et il faut réussir dans une certaine façon de réussite qui ne convient pas à tout enfant. Hein. Et nos parents, ils ont peut-être été très exigeants aussi. C'est des fardeaux qu'on porte. Ce n'est pas des fardeaux de Dieu. Vous n'avez pas l'air convaincu. Est-ce que vous êtes en train de constater vos propres fardeaux, blessures du passé, et vous dites, mais c'est pas vrai, j'ai porté ça toute ma vie en pensant que c'était la volonté de Dieu. Hein? Est-ce que vous voulez se débarrasser de ça aujourd'hui? Alors c'est tout simplement, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais c'est quoi la vérité? Mais c'est Jésus. C'est l'enseignement de Jésus. Vous connaîtrez la vérité sur qui vous êtes. Vous connaîtrez la vérité des vraies attentes, pas de tes parents, pas de tes éducateurs, pas de la société, mais de Dieu. Et cette vérité vous affranchira. Aujourd'hui. Si vous entendez ma parole, n'endurcis pas vos cœurs. Tu sais, le peuple de Dieu, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'ils portent ce fardeau? Ils n'étaient pas loin de la terre promise. Ils avaient la tête dure. Et la tête dure nous fait souffrir. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Je parlais tout à l'heure de qui nous sommes en Dieu. Et, donc j'ai changé le sujet de mon partage ce matin parce que avec tout ce qu'on a vu avec des enfants, mais Dieu, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans cette direction de notre identité. J'ai vu ces petits-enfants, ces bébés, et j'ai regardé et j'ai vu leur innocence. Avant qu'ils soient endommagés par ce monde. Innocents. Ils ont déjà une identité. Même s'il ne peut pas dire « moi je suis ça » ou « je suis ça », tout est déjà là. Comme Adam et Ève, ailleurs. Tout était là. Et je ne sais pas comment vous interprétez cette histoire cryptique dans Genèse du serpent et de fruits, de l'arbre de la fruit, de la connaissance du bien et du mal. Mais eux, ils connaissaient que du bien avant. Et en fait, cette partie où les anges ou les fils de Dieu ou Dieu disait, mais il ne faut pas qu'ils mangent de ça, parce que le jour qu'ils mangent de ce fruit-là, ils vont être comme nous, connaissant le bien et le mal. Tu sais, le mal, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi. Le mal, c'est la négation du bien. C'est la négation de quelque chose. Et là, en fait, le péché, si on regarde les mots utilisés dans le Nouveau Testament pour péché, ça un peu ça, c'est si vivre dans l'ignorance de ce qui est vrai. Après, c'est les péchés qui viennent. Mais le péché, c'est de vivre comme si on est aveugle à ce qui est déjà là. On a dit ce matin que Dieu nous connaissait chacun avant notre naissance. Et la Bible nous le dit. Nous étions choisis en Christ avant la fondation du monde. Alors, qui étions-nous aux yeux de Dieu avant notre naissance et avant la fondation du monde? Hein? Qui étions-nous? Mais ça, c'est notre vraie identité qui nous semble cachée en Christ, mais qui nous révèle petit à petit. Et c'est quoi ça? Mais c'est l'original de moi. C'est l'original de toi. Et donc pour nous, c'est comme une renaissance quand on découvre ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas une renaissance. C'est l'original. Hein? Vous connaissez l'histoire du lion, le roi lion? Ok. Alors, vous vous souvenez le nom du singe? Rafiki. Rafiki, c'est un mot swahili pour dire ami. Oui, ami. Rafiki. Et Simba. Là, vous vous souvenez de cet épisode où son père est tué ou mort, et puis son oncle méchant accuse à tort Simba. Et puis, à cause de ça, il croit un mensonge. Et il s'enfuit, loin de chez lui, comme le fils prodigue. Et il oublie son identité. Comme nous tous. C'est ça le péché. C'est vivre dans l'ignorance de ce qui est vrai. Merci. Il a oublié. Il a oublié son père. Il a oublié qui il était. Tu sais, quand Dieu appelle Abraham, c'est traduit dans notre Bible, va vers, quitte ta famille et va vers la terre que je vais vous montrer. C'est ça? Mais en fait, tu sais, l'hébreu, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est nuancé. Et une version de ce que Dieu a dit à Abraham, c'est quitte ta famille et va vers toi. C'est bizarre, hein? Va vers toi. Tu sais, Abraham vivait dans un pays païen qui avait beaucoup d'idoles. Il était éduqué là. Donc, il est devenu... Il faisait partie de cette culture-là et son identité était imprégnée de cette culture-là, qui n'était pas le vrai Abraham que Dieu avait vu, conçu avant la fondation du monde. Alors Dieu dit, va vers toi, va chercher. Je vais te montrer la terre promise qui est en toi. Je vais te montrer le vrai toi. C'est ça le voyage, mes amis, de cette vie chrétienne. C'est la redécouverte de qui nous sommes et de qui nous étions depuis toute éternité, aux yeux de Dieu. Alors l'apôtre Paul dit, Je suis mort avec Christ à la croix. Et pourtant, je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si Jésus a pris le péché du monde sur lui, et le péché, c'est vivre dans l'ignorance de ce qui est vrai. Mais Jésus a souffert cette même crise d'identité pour tout le monde que nous avons. Il a souffert cet oubli. Et pour moi, celui qui doit mourir à la croix, ce n'est pas le vrai moi. C'est le faux moi que j'ai créé moi-même ou les autres ont créé pour moi, avec moi, dans cette complicité du péché depuis Adam et Ève. En fait, le piège pour eux, c'était... Ils pensaient qu'il manquait quelque chose. Parce que le mensonge était, si vous mangez de ça, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu. La Bible le dit, ils étaient créés à l'image de Dieu. Ils avaient tout. J'ai un ami qui est en train de traduire le Nouveau Testament. Et c'est magnifique. Malheureusement, c'est en anglais. Pour vous. Mais c'est révolutionnaire. Et il appelle cet arbre du fruit bien eu de mal. Il appelle ça... en anglais, the I am not tree. Dieu, c'est I am. Cet arbre, c'est le I am not tree. C'est le je ne suis pas arbre. L'arbre, je ne suis pas. Je ne suis pas assez capable. Je ne suis pas assez ça. Je ne suis pas assez ça. Je manque quelque chose. Je n'ai pas assez de force. Je n'ai pas assez d'amour. Je n'ai pas assez d'intelligence. Je n'ai pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. Ce n'est pas l'esprit du monde. D'où vient la convoitise de toute chose? Pour combler quelque chose, parce qu'on dit, je ne suis pas, je n'ai pas, c'est pas assez. Et donc, ils avaient mangé de cette pensée, je ne suis pas. Et ils ont créé des faux. Et Dieu n'est jamais dans les faux. Dieu n'est jamais dans les contrefaçons. Et Dieu n'oublie jamais le vrai que vous êtes, que je suis. Et donc, c'est pour ça que Jésus est venu. Et dans l'histoire du roi Lion, mais le singe, c'est un peu Jésus, qui vient avec beaucoup d'humour, le rappeler qu'il était, vous vous souvenez, cet épisode où il est devant un étang, une flaque d'eau, et puis l'eau est troublée, et à un moment, il voit son père. Et dans son père, il se voit. Parce que nous sommes en lui. Et nous nous ressemblons. Mais quand l'eau est, tant que l'eau est troublée, on ne voit pas clair. Je traduis le psaume 23. Dans les eaux limpides de sa grâce, mon âme est restaurée. Tu vois? Il faut que l'eau soit limpide, calme, pour voir clair. Et là, on se voit en lui. Ça, c'est l'original. Et ça nous libère. Parce que il ne manque rien avec celui-là. Celui-là est parfait, comme un nouveau-né, sans tache. Je sais que c'est trop bon pour croire, que c'est si facile. Moi, je vois des chrétiens, et j'étais, quelque part, j'étais élevé comme ça. Et je pense que beaucoup de nous, nous étions élevés comme ça. C'est, on pense que on peut changer l'ancien moi, ce faux moi. Et on est dans le, ce qu'on appelle en anglais behavior modification. Il faut juste essayer de changer, réparer, restaurer. Il y a des gens qui, c'est toujours les mêmes qui viennent pour la prière de restauration, de guérison après. Hein. Non, j'exagère, mais quand même. La bonne nouvelle, et ça c'est selon moi, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est que l'ancien, le faux, ne peut pas être réparé ou restauré. C'est parce que de toute façon, aux yeux de Dieu, ça n'avait jamais existé. Parce que Dieu est dans la vérité. Donc on essaie de réparer quelque chose que quelque part n'existait jamais, sauf dans notre imagination. La Bible dit que vous êtes devenus ennemis de Dieu par vos pensées, par vos vaines imaginations. On s'est séparé de Dieu par nos pensées. Nos pensées de nous-mêmes. Alors, ici en Europe, quand nos voitures ne passent plus contrôle technique, mais qu'est-ce qu'on fait ? Soit ça va à la casse, qui est leur destination, oui, destin, ou bien on les exporte en Afrique, dans les bateaux. Parce que là, il n'y a pas de contrôle technique. Il y a juste des centaines de mécaniciens ambulants à tout coin de la rue. Et puis, qu'est-ce qu'ils font là-bas avec ces bagnoles. Et je me moque pas d'eux parce qu'ils ont pas de chance. Hein. Donc et ils sont très doués à faire rouler une voiture encore 10 ans, même 20 ans. Hein? Donc un nouveau coup de peinture et puis on cannibalise les pièces et puis on continue à rouler. Mais c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu nous offre l'original Mercedes de notre identité. Mais nous, on est tellement fiers et attachés aux fausses bagnoles dans lesquelles nous vivons qu'on ne veut pas le lâcher. On préfère le réparer. Est-ce que ça, c'est pas notre orgueil? C'est quoi les trois trucs qui ne viennent pas du Père? La convoitise des yeux, c'est-à-dire la convoitise de la chair, et la fierté de la vie, l'orgueil de la vie. Nous, on ne veut pas admettre que ce faux moi ne peut pas être réparé. Donc on continue, pas sous la grâce, mais sous la loi. Le vrai moi n'a pas besoin d'être réparé, ni restauré. Et pourtant je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus cet ancien imposteur, faux moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, est-ce que le Christ a un problème? Le Christ en moi, est-ce qu'il a un problème aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut le restaurer? Mais là, c'est le même pour le Christ en toi. Hein? Est-ce que ça commence à être croyable? Hein? Tu sais, la bonne nouvelle, c'est tellement bonne que c'est difficile à accepter. On pense que ça doit être plus dur que ça. Parce que comme ça, je peux faire un effort. Et je peux montrer aux autres que j'ai changé. Ah, le problème, c'est que après 20 ans, 30 ans dans une église, en essayant de se changer et ça marche pas vraiment parce que tu gères un fruit du péché ici et par ta volonté, ta puissance, et puis mais ça, le même péché ressurgit d'une autre expression ici. Et après 30 ans, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les gens attendent une certaine maturité dans nos vies. Alors on commence à tricher. On fait semblant. On porte des masques. Parce que l'ancien est toujours là et n'a pas changé. C'est vrai dans beaucoup d'églises. Le vrai moi n'a pas besoin de porter masque. Le vrai moi, c'est le reflet de mon Père et de Jésus-Christ. Regardons à Jésus. Il est non seulement l'exemple pour nous, il est l'exemple de nous. Hein? Nous étions choisis en Christ. Il est l'exemple de nous. Et il a tout fait. Il ne manque rien à mon identité. Il faut juste le recevoir. Recevoir la révélation de qui est Christ et de qui nous sommes. La Bible dit que toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur. Que tout genou fléchira et toute langue confessera. Pour moi, c'est ça la fin. C'est pas mauvais. Tout genou fléchit, toute langue confesse. Toutes les extrémités de la terre se souviendront, je ne sais pas quand, dans 10 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Ce n'est pas mon problème. Dieu est patient. Oh là là, comment terminer ça? Hein? Avec un chant. Alors, je ne sais pas si on a les paroles pour celui-là, mais ça s'appelle « Je suis mort avec Christ ».« Je suis mort avec Christ ». Non, il n'y est pas. Alors, on va l'apprendre, au moins le premier couplet. Je suis mort avec Christ à la croix. Je suis mort avec Christ à la croix. Et pourtant, je vis. Et pourtant, je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui me vit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui agit par la foi du Fils de Dieu qui m'a tant aimé et qui s'est livré pour moi à la croix. Alors, c'est un peu compliqué, mais si on chante ensemble, je suis mort avec Christ à la croix. Je suis mort avec Christ à la croix. Encore une fois. Je suis mort avec Christ à la croix. Et pourtant je vis. Et pourtant je vis. Et pourtant. Et pourtant je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui me vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui a, Christ qui agit par la foi du Fils de Dieu qui m'a tant aimé et qui s'est livré pour moi à la croix. Et c'est là où ma vraie vie recommence. Et de là, il m'invite à la danse dans ses bras d'amour, dans son cœur à toujours. Et il m'a fait asseoir avec lui dans le trône de sa grâce. Face à face, dans le Père et dans le Fils. Enfin me voici, je régnerai avec lui à jamais. Je suis mort avec Christ à la croix. Je suis mort. Je suis mort avec Christ à la croix. Et je revis par sa foi dans la joie. Je revis. Et je revis par sa foi dans la joie. Je revis. Et je revis par sa foi dans la joie. Amen. Est-ce qu'on peut prier ?